Seigneur, on a plaisir à être là dans ta présence. On a plaisir à être ensemble pour te louer, pour t'adorer, pour partager ta parole. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, que tu nous fais, d'être tous ensemble ce soir réunis pour te louer, pour t'adorer, pour ouvrir ta parole. Merci, mon Jésus, pour la liberté que nous avons de pouvoir le faire. Merci parce que tu es là et tu es là-bas aussi. Tu es avec chacun d'entre nous maintenant. Gloire à ton nom, loué soit ton nom, Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver ce soir pour ce temps vraiment particulier. On vit un contexte vraiment spécial, mais nous avions à cœur, nous ministères pasteurs, de continuer à partager la parole avec vous. Et je rends grâce et je bénis la technologie pour ce qu'elle nous permet de vivre et de faire ce soir, de pouvoir être ensemble, de louer Dieu ensemble, de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. La semaine dernière, nous avons commencé une série que j'ai intitulée Makarios. Makarios, j'avais du mal à l'appeler heureux et j'avais du mal à l'appeler béni parce que Makarios, c'est une contraction des deux. C'est important de comprendre ça parce que ce n'est pas juste l'idée d'être heureux, ce n'est pas juste l'idée d'être béni. Ça pourrait être on est heureux parce que Dieu nous a bénis. Ça pourrait être ça. Et Makarios, c'est ça le sens profond que je voulais donner à cette série. Ce n'est pas être toujours heureux, mais c'est aussi l'idée d'être béni. La deuxième chose qui est importante à comprendre dans cette série, c'est qu'il s'adresse à des disciples. Dans les deux passages qui font référence au sermon sur la montagne, Jésus est entouré des disciples qu'il a choisis, des 12, mais il est aussi entouré d'une foule qui avait suivi Jésus depuis le départ, qui avait plaisir à entendre ce jeune rabbin, ce jeune ministère qui avait des paroles étonnantes et qui parlait Dieu d'une façon révolutionnaire. Et la troisième chose qui est importante, c'est que Jésus, dans ce passage-là, est au tout début de son ministère. En effet, il était 40 jours dans le désert à jeûner et prier, et il avait besoin de ce temps. Il a choisi ses disciples, et ce passage, ce sermon sur la montagne, vient juste après. C'est vraiment l'un des tout premiers sermons de Jésus qui nous est relaté. Et ce sermon n'est pas juste un détail, c'est un programme que Jésus... détail, c'est un programme que Jésus nous transmet. Et ce programme, il est d'une profondeur. Je suis souvent interpellé des commentaires de textes concernant ce passage parce qu'ils ne sont jamais les mêmes. Il y a des interprétations qui vont dans tous les sens, des explications qui vont dans tous les sens, mais bien souvent, on ne retrouve jamais la même explication. Le texte est tellement profond. Jésus aborde tellement de choses au travers de ce passage. Et permettez-moi ce soir de vous livrer ma compréhension du texte ou sans doute ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. La dernière fois, nous avions parlé de différentes choses. Nous avions parlé en effet des pauvres en esprit. Jésus n'est pas en train de parler de ceux qui sont pauvres. Il n'est pas en train de parler de ceux qui sont pauvres en esprit comme on pourrait le comprendre. Il est juste en train de dire que ceux qui ont besoin de Jésus, ceux qui ont besoin de Dieu, le royaume des cieux est pour eux. La deuxième chose que nous avions vue, il parlait des affligés. Il demeure ce Dieu des affligés. Il demeure ce Dieu qui veut les consoler. Nous avions vu ça aussi. Et la troisième chose que nous avions vue, il fait question des débonnaires. Heureux les débonnaires, parce qu'ils hériteront de la terre. Et les débonnaires, ça veut dire aussi plein de choses. Mais dans le sens profond que Jésus a voulu donner à ce texte, il parlait des gens qui sont gentils. Et par moments, on peut se lasser d'être gentil, mais Jésus nous encourage à être gentil. Jésus nous encourage à nous maintenir dans cette gentillesse. Par moments, on a le sentiment d'avoir tellement été trop gentil qu'à la fin, on ne veut plus être gentil. Mais Jésus nous demande de persévérer dans cette gentillesse. Et il nous dit, mais persévérez, soyez bénis, vous qui êtes heureux, vous qui êtes bons, gentils, car vous hériterez de la terre. Ce soir, j'aimerais partager avec vous trois autres versets, trois autres réflexions. Et la première, c'est celle qui nous dit au verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Ce passage m'a beaucoup interpellé parce que Jésus fait un lien entre sa justice et des besoins primaires que peuvent être la faim et la soif. Et permettez-moi d'aller plus loin dans le raisonnement, parce que Jésus ne parle pas simplement d'avoir faim et d'avoir soif. Quand on prend la traduction précise, il parle de ceux qui souffrent de la faim et ceux qui souffrent de la soif. Il est en train de parler de quelque chose qui est profondément ancré dans ce que nous sommes. Ce sont des besoins viscéraux, si je puis dire. C'est notre corps, c'est tout notre être. Quand on a faim et quand on a soif, combien c'est difficile de faire autre chose, de penser à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est compliqué. Et Jésus fait ce lien entre sa justice et le besoin de vivre cette justice au travers de choses qui sont profondément viscérales en nous. La faim et la soif. La version Jérusalem est très intéressante parce qu'elle dit « Heureux ou bénis sont ceux qui sont affamés et assoiffés de la justice. » Alors il ne s'agit pas non plus de notre propre justice, vous l'avez compris, mais il s'agit de la justice de Dieu. Et cette justice, elle est particulière à bien des égards, elle n'est pas notre justice. Et ce soir, je voudrais t'encourager à percevoir l'idée de cette justice dans ce qu'est la loi que Jésus veut inscrire sur notre cœur. La loi, au départ, elle est sur les pierres. Et Jésus, en tout cas les prophètes, ont annoncé que cette loi ne serait plus inscrite sur des pierres, mais elle viendrait s'inscrire sur notre cœur. Cette loi va devenir viscérale, elle va devenir quelque chose en nous. Finalement, ce texte préfigure du programme que Jésus va amener dans les jours à venir. Il est en train tout simplement de parler de cette transformation que Jésus veut opérer dans notre cœur au travers du salut, au travers du fait de laisser le Saint-Esprit rentrer en nous. Ce qui était extérieur devient viscéral en nous. Et quand on devient enfant de Dieu, Dieu opère une transformation profonde en nous qui fait que notre vouloir et notre désir, notre vouloir et faire est transformé selon sa volonté. On est imprégné de lui. C'est une chose extraordinaire que de vivre cette régénération de l'esprit. Et clairement, Jésus annonce ce programme. Au travers de ce verset, il parle en effet « Heureux ceux qui auront faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Ça va devenir un besoin. Le Saint-Esprit va faire naître en nous le besoin de lui plaire. Ça va devenir quelque chose de profond en nous, notre cœur. Beaucoup disent que, et moi je suis témoin de ça, en moi, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai vu plein de choses changer. J'ai vu l'œuvre du Saint-Esprit m'amener à rejeter des choses. Et ça se fait tellement naturel. Et en même temps, je vais vous dire, on a le sentiment par moments que quand on ne fait pas ce que le Saint-Esprit nous dit, il y a une tristesse qui s'empare de notre cœur. Clairement, sa loi devient viscérale en nous. Heureux, béni celui qui a faim et soif de la justice, car il verra cette justice s'accomplir. Dieu a pour objectif, Jésus dans son programme a pour objectif, non pas simplement de nous amener à appliquer une loi bêtement, mais de faire cette loi quelque chose qui devient partie de nous entièrement. C'est le miracle de la transformation, de la régénération, de la nouvelle naissance. Et clairement dans ce passage-là, Jésus est en train d'énoncer dans son programme ce qu'il va faire au travers du Saint-Esprit en nous à partir du moment où on va accepter Jésus en nous. C'est extraordinaire de voir dans ce texte de base, Jésus est en train d'annoncer ce qu'il veut faire, d'annoncer ce qu'il va faire. Cette justice, elle va devenir nôtre, elle va faire partie de nous. Elle va être partie entière de ce que l'on va être amené à faire, à dire, à prononcer. La régénération, c'est une œuvre extraordinaire, c'est un miracle, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Amen. La deuxième chose que Dieu nous dit dans ce texte, il parle de la miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il est une chose fondamentale de comprendre dans qui est Dieu. Dieu est miséricordieux. Il y a tellement de passages qui font référence à ce Dieu qui est miséricordieux. Dans Deutéronome, quand Dieu se présente, ce passage juste est très étonnant où il est dit quelque part, il punit jusqu'à la troisième et quatrième génération. Mais on a l'impression que Dieu ne se satisfait pas de ça. Et puis il poursuit de suite derrière, mais il fait miséricorde jusqu'à la millième génération. Vous voyez le rapport, deux, troisième génération, millième. C'est comme si Dieu disait, mais autant j'aime la justice, autant je prends un réel plaisir dans la miséricorde. Je suis un Dieu miséricordieux. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas un hasard de trouver l'idée de la justice, parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu qui applique la justice et il est le mieux placé pour l'appliquer, cette justice. Et quelque part, c'est comme si Jésus disait, oui, j'aime la justice, mais j'aimerais vous dire une chose. Je prends plaisir dans la miséricorde. parce que Dieu est un Dieu miséricordieux. Et tout au long de son ministère, Jésus s'est attelé à appliquer cette miséricorde extraordinaire. Dans une des paraboles que Jésus a racontées, en particulier cet homme qui avait une dette, c'est dans Matthieu chapitre 18, verset 24, 25, permettez-moi de le lire. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Ça, c'est la justice. Et clairement, Dieu, dans ce passage, le maître, permettez-moi ça, s'apprêtait à appliquer cette justice. Sauf que Dieu est un Dieu miséricordieux. Sauf que Dieu est un Dieu miséricorde. Et lisez la suite, le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Et notez bien ce qu'il est dit après. Ému de compassion, verset 27, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Dieu est un Dieu miséricordieux et je vais vous expliquer pourquoi, parce que Dieu a un cœur. Et ce passage le dit, ému de compassion, Dieu a laissé son cœur parler face à la détresse de cet homme, face au désespoir de cet homme, face à cet homme qui s'humilie, qui se jette à terre, qui se prosterne, qui quelque part montre de la repentance aussi, du regret. Le cœur de Dieu bascule. La Bible dit que nous avons été faits à l'image de Dieu, clairement. En nous, il y a de Dieu. Moi, souvent, et peut-être vous êtes parents comme moi, et vous vivez ça avec vos enfants, mais combien nos enfants peuvent nous exaspérer et nous amener à penser qu'on va les punir jusqu'au retour de Jésus. Par moments, nos enfants nous poussent tellement en boucle qu'on a envie de les enfermer et on leur dit bah, « jusqu'à tes 18 ans, tu seras dans ta chambre ». Et puis à un moment donné, alors qu'on est dans notre colère, on croise le regard de nos enfants. On voit leur détresse, on voit leur peine et là, il y a notre cœur qui chavire. Alors par moments, on maintient la punition parce qu'on sait que c'est important, mais par moments, on laisse notre cœur chavirer parce qu'on est touché par nos enfants, parce que nos enfants viennent toucher ce qu'il y a de plus profond en nous. Et c'est notre cœur qui bascule, comme le cœur de Dieu bascule, ému de compassion. Notre cœur bascule. Et j'aimerais vous dire une chose, Dieu prend plaisir quand son peuple, quand ses disciples vivent cette bascule. Quand on refuse que la colère l'emporte. Et quand on refuse aussi même tout simplement d'être dans une certaine justice. Comprenez, Dieu n'est pas contre la justice. Mais Dieu nous laisse un choix aussi à un moment donné. Tu as le droit d'être juste. Tu as le droit d'appliquer une justice. Tu as le droit de dire c'est juste. Mais aussi tu as peut-être le droit de vivre ce que Dieu veut que nous vivions et qu'il nous encourage à vivre, de laisser ton cœur basculer, de pardonner peut-être, de dire oui, ça serait justice, mais j'ai décidé de faire grâce. J'aimerais te dire de la part de Dieu, à partir du moment où tu acceptes, où tu laisses ton cœur basculer, Dieu tient les comptes, et ce passage-là est là pour nous le dire. À partir du moment où tu seras miséricordieux, Dieu sera miséricordieux avec toi. Bénis celui qui sera miséricordieux parce qu'il vivra la miséricorde. Mes frères et sœurs, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Et par moments, on pointe le doigt sur les gens et on serait tenté d'appliquer une certaine justice. Et souvent, je me dis, mais fais gaffe, fais attention. Applique-toi à vivre et à vivre cette miséricorde. Sois miséricordieux, parce que peut-être un jour, tu auras besoin que Dieu soit miséricordieux avec toi. La parabole que nous avons lue de cet homme qui est endetté et qui va être remis de sa dette, cet homme-là, alors qu'il vient d'être remis de sa dette, retrouve un de ses copains, un de ses amis, qui lui-même lui devait de l'argent. Et cet homme qui vient, voit sa dette être levée, s'empresse à appliquer une justice. « Tu me dois de l'argent, rends-moi cet argent, il est à moi !» Et il le prend et il y a une certaine violence. Et le maître qui vient de remettre la dette à cet homme est choqué. Mais moi, je viens de te remettre la dette et toi, tu ne fais pas de même avec cet homme qui te doit aussi de l'argent. J'ai le sentiment qu'au moins on est miséricordieux, au moins Dieu l'est avec nous. Au plus on l'est, au plus Dieu l'est avec nous. Et je voudrais t'encourager à vivre la miséricorde parce qu'à un moment donné, tu pourrais avoir besoin de la miséricorde de Dieu. Et clairement, ce texte, c'est ces phrases prononcées, ce sont des paroles paroles prophétiques, mais ce sont aussi des promesses. Béni, tu es heureux, toi qui es miséricordieux, parce que Dieu te permettra de vivre sa miséricorde. Le cœur de Dieu va basculer parce que tu as laissé ton cœur à un moment donné basculer dans la compassion, dans l'amour, dans le fait de pardonner peut-être à un moment donné. Ce texte poursuit, et j'aimerais terminer simplement par ce dernier passage où il est fait question « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Ce passage m'a souvent interpellé, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que je me suis dit mais c'est impossible en fait. Dans l'idée de la pureté de l'Ancien Testament, c'est ce qui est purifié par le feu, c'est ce qui est saint, c'est ce qui est très pur, c'est ce qui est aussi pour nous, à mon sens, inaccessible. Alors du coup, je repars assez frustré de cette lecture, parce qu'au départ, quand je lis ce texte, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. » Alors je me dis, bah, « Seigneur, on est mal barré, parce que s'il faut avoir le cœur pur pour te voir, eh ben, Seigneur, notre cœur sera jamais pur dans un sens. » Et le Seigneur m'a conduit à vouloir comprendre exactement ce que Jésus a voulu dire dans ce passage, parce qu'on peut passer à côté de ce que Jésus a voulu dire dans ce passage. Et Jésus va faire référence plus tard dans son ministère à la pureté, quand il est avec Pierre et que Jésus décide de laver les pieds de ses disciples. Tous les disciples sont à tabler et Jésus est là, il fait le tour de ses disciples, il arrive à Pierre et Pierre ne veut pas que Jésus lui lave les pieds. Et c'est dans ce passage-là qu'il y a une notion de pureté qui arrive. Jésus va lui dire « Mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'as point de part avec moi. » Alors Pierre va dire « Ben, lave-moi les pieds et puis tout le reste. » Et dans ce contexte-là, Jésus va dire ce texte, Jean chapitre 13, verset 10, Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Quelque part, dans le contexte de ce passage, c'est un contexte un peu particulier, Jésus est en train de préfigurer ce qu'il va faire. Il dit « Mais vous êtes purs », il poursuit ce passage, je vous inviterai à le lire, « Vous êtes purs, mais pas tous. » Mais il est dans une préfiguration de ce que Jésus est en train d'entreprendre. Il est en train de dire, au travers de ce symbolisme-là, de laver les pieds de ses disciples, « Moi, dans quelques heures, je vais actionner l'œuvre de la purification sur vos vies. Mon sang va être répandu et il va vous purifier. » Alors, il ne s'agit pas de la pureté de l'Ancien Testament. Vous aurez tout un tas d'études, d'ailleurs, qui parlent de cette pureté et qui vous font référence à ce qu'est cette pureté. Mais ce que Jésus veut nous amener à comprendre, ceux qui, heureux, bénis sont ceux qui ont le cœur pur, c'est dans ce contexte-là. C'est ceux qui auront été purifiés par le sang de l'agneau. C'est cette purification à laquelle Dieu nous appelle. Alors, en effet, nous ne sommes pas purs comme l'Ancien Testament l'avance, mais comme le Nouveau Testament l'annonce. Nous sommes purifiés parce que nous sommes recouverts du sang de Jésus. Nous avons été justifiés dans le sang de Jésus. Couverts du sang, nous avons revêtu un vêtement de justice qui fait que quand Dieu nous voit, il ne voit plus notre péché. Il ne voit plus ce qui n'allait pas, mais il voit Jésus en nous. Ce qui fait que nous sommes purs. Quand Dieu nous voit, il voit la pureté de Christ en nous. Et c'est ça que ce texte annonce, c'est ça que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire « Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui auront été lavés dans le sang de l'agneau, parce qu'ils seront purs, parce qu'aux yeux de Dieu ils seront purifiés, et parce qu'ils auront été purifiés dans le sang de l'agneau, alors ils verront Dieu. » C'est clairement une préfiguration du salut, du fait qu'à un moment donné, Dieu nous attendra dans son ciel, qu'il ouvrira ses portes. Oui, en effet, purifié dans le sang de l'agneau, Dieu ouvre ses portes et nous pouvons aller à sa rencontre. Et le ciel, nous verrons Dieu. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, le sermon sur la montagne n'est pas juste une préfiguration du ciel, c'est aussi une préfiguration de ce que nous sommes appelés à vivre en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous avons été purifiés. Dieu nous fait cette promesse. Heureux vous qui êtes purs, heureux vous qui êtes bénis, heureux ceux qui auront accepté le sang de l'agneau parce qu'ils verront Dieu. Et je voudrais laisser ça sur ton cœur ce soir. Ce texte m'a fait penser à un autre texte, à celui des disciples, qui à un moment donné vont vivre un constat, celui du jeune homme riche. Le jeune homme riche vient à Jésus, il lui dit « Mais que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus va lui dire « Vends certaines choses, enfin, applique-toi à tout un tas de choses. » Et le jeune homme riche va dire « Ben, j'ai fait tout ça. » Et à la suite de ça, Jésus va lui dire « Ben, il te manque une seule chose. Et le jeune homme riche, peut-être quelque part dans son cœur, s'est dit « Waouh, une seule chose et c'est bon, Jésus lui dit « Vends tout ce que tu as et suis-moi. » C'était le problème. Et il nous a dit que ce jeune homme riche va partir tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens et qu'il était incapable de laisser tout ça pour suivre Jésus. Mais l'histoire en reste pas là. C'est la suite qui est très intéressante. La suite est très intéressante parce que, en fait, les disciples, ils sont abasourdis. Ils sont laminés parce que, si vous voulez, le jeune homme riche a entrepris tas de choses et ça va pas. Et les disciples, au fond d'eux, se disent « Mais si lui qui fait tout ça n'y arrive pas, mais qui peut ?» Et il y a une espèce de frustration qui naît en eux de se dire « Mais lui qui fait tout ça peut pas, alors nous, on peut pas non plus. » Et Jésus va leur dire une réalité, mais ce qui est... C'est impossible aux hommes, en fait. C'est ce que dit le texte. Dans Marc chapitre 10, verset 26, verset 27, il est dit « Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Peut-être en ce moment, tu luttes avec la pureté et peut-être au fond de toi, tu arrives avec le sentiment de dire ou cette parole qui vient en ton cœur de dire ben, « Je suis en face d'une impossibilité. » Et je crois que par moments, Dieu veut nous pousser à vivre cette impossibilité, veut nous pousser à faire ce constat-là pour que Jésus nous lave nos pieds, pour que Jésus se manifeste en nous et manifeste sa puissance et nous dit « C'est moi qui vais te purifier », comme Jésus l'a fait auprès de ses disciples en lavant leurs pieds dans ce symbolisme des choses qui allaient arriver, la croix. Et en tant qu'enfant de Dieu, on peut vivre ce genre de combat. Et cette frustration de se dire au fond de moi, mais Seigneur, je suis encore en lutte et je me suis battu avec toutes mes forces. Et par moments, Dieu veut nous amener à ce constat de lutter de toutes nos forces pour arriver à se libérer de quelque chose. Et on lutte, on essaye et on arrive à ce constat, mais c'est impossible en fait. Et ça ne fait pas peur à Dieu. Nos impossibilités ne font pas peur à Dieu, elles sont juste l'axe qui va permettre à Dieu de se manifester dans ta vie. Tu vis une impossibilité en toi, un combat, une lutte telle qui t'amène à être en lutte avec la pureté. Alors oui, il y a l'idée de la pureté vécue dans le sang de l'agneau, mais par moments, il reste souvent quelque chose qui fait qu'on n'est pas en paix avec Dieu et tu es en lutte, en combat avec ça. Et j'aimerais t'encourager au travers de ce passage. Dieu n'est pas juste en train de t'amener sur le terrain de la frustration en te disant « Tu es béni, toi qui as le cœur pur, et puis nous qui... Toi, peut-être, qui vis ça comme ça, mais moi, je n'ai pas le cœur pur. Je vis un combat intérieur. J'ai essayé d'avoir le cœur pur. » Et du coup, il y a la frustration de se dire, mais je ne verrai pas Dieu, comme le dit ce texte. Mais en fait, ce n'est pas ce que Jésus a dit dans ce passage. Dieu ne veut pas t'inviter à lutter avec tes propres forces, mais clairement, dans ce passage-là, il est fait référence à cette pureté que Jésus veut amener dans nos vies, qui n'est pas le fruit de ton œuvre, de ton travail, de ta volonté. Elle est le fruit de la reconnaissance dans ta vie, de ton impossibilité. Ce soir, en fait, Dieu veut t'amener à faire ce constat et faire cette prière. « Seigneur, il y a quelque chose qui est impossible. » Et Jésus vient derrière pour te dire « Mais ce qui est impossible aux hommes reste possible à Dieu. » Amen. C'est possible à Dieu. Ça reste possible pour Dieu que ce soir, tu puisses partir de ce lieu avec un cœur pur. Et je voudrais t'encourager parce que cette promesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas que dans une vision céleste, elle est dans une vision ici-bas. Ton cœur pur commence dans le fait de reconnaître qu'il y a une impossibilité en toi. Et de dire, Seigneur, je viens combat, j'ai essayé, mais c'est impossible. Et j'aimerais t'inviter à penser que parce que tu reconnais cette impossibilité, c'est la première démarche du cœur pur qui va t'amener à voir Dieu agir en toi. Je veux croire que ce soir, tu vas commencer à voir Dieu agir dans ta vie, dans ce domaine particulier où tu es en train de reconnaître une impossibilité en toi. Je voudrais juste t'encourager à prendre cette promesse où Dieu heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Jésus ne veut pas t'amener à l'idée de la sainteté à 100%, mais il est dans cette progression de sainteté à la fois, mais surtout t'amener à accepter que le sang de Jésus vienne te recouvrir encore et encore, te purifie encore et encore. Et cette impossibilité qui est sans doute pour toi une tâche qui t'amène à douter de ce que Dieu veut faire et du simple fait de voir Dieu agir dans ta vie. Dieu veut s'en débarrasser aujourd'hui. Tu vas voir Dieu agir en toi. tu vas voir Dieu agir dans ta vie. Je veux croire que à partir du moment où nous nous revêtons du sang de l'agneau, à partir du moment où nous décidons peut-être de revenir à Jésus en disant « purifie mon cœur, purifie mon âme », nous sommes appelés, comme le dit ce texte, à voir Dieu agir dans nos vies. Et c'est cette position de foi que je voudrais que tu aies ce soir. Tu n'es pas purifié parce que tu vas faire un travail, mais parce que tu vas accepter que le sang de Jésus te recouvre encore ce soir. Et parce que tu vas accepter que le sang de Jésus te purifie, alors tu vas voir Dieu agir dans ta vie. Comme le dit ce texte, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui auront choisi la voie de la sanctification en acceptant le sacrifice de Jésus sur leur vie, parce qu'ils, et ainsi ils verront Dieu agir. Ainsi ils verront Dieu dans leur vie. Dieu t'appelle à cette sanctification, à ce cœur pur, par l'œuvre de transformation, de régénération de Jésus en toi. Alors ce message paraît tellement simple, mais il y en a tellement qui luttent avec leurs impossibilités. Dieu veut se manifester en toi. Dieu veut laver tes pieds et tout le reste d'ailleurs. Purifier ton âme, purifier ton cœur, pour qu'il dise de toi, comme il va le dire à ses disciples, « Vous êtes purs ». Alors ce n'est pas un appel à la perfection, c'est au ciel que nous serons parfaits. Mais quand Dieu portera son regard sur nous, il ne verra plus notre péché, mais il verra Jésus en nous. Et il dira « Celui-ci est pur ». Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vais insister dessus, ce n'est pas que dans une vision céleste des choses, ce n'est pas que dans une vision du paradis, mais c'est dans une réalité de ta vie aussi que Dieu veut intervenir, tu vas voir Jésus agir. Autant dans la régénération que Dieu veut entreprendre en toi, mais aussi dans ton quotidien. Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à voir tous les jours Dieu agir. Et je voudrais t'encourager sur la base de cette parole, parce que tu as été purifié, alors tu verras Dieu agir. Il y a une action... C'est une disposition de cœur de penser que tous les jours, on peut voir Dieu agir d'une certaine façon. Et quand on se décide à être attentif au fait de voir Jésus, on le voit agir. Je pense que par moments dans nos vies, on n'est pas suffisamment sensible ou on n'est pas suffisamment ouvert sur le fait que Dieu veut se montrer à nous dans une journée. Et par moments, le simple fait de dire « Seigneur, en quoi aujourd'hui tu vas te montrer? De quelle façon tu vas te montrer à ma vie ?» Eh bien, ça nous rend plus sensibles. Et des fois, Dieu se montre au travers de détails, au travers de choses qui viennent toucher notre cœur. Et quand on comprend que cette chose vient de lui, dans cette volonté de se montrer à nous, parce qu'il nous a purifiés, il nous a lavés, alors ces petits détails de la vie qui sont par moments insignifiants prennent une autre saveur et deviennent pour nous une opportunité qu'a Dieu de se montrer à nous. Ce soir, je voudrais simplement... t'encourager à vivre ce que la parole de Dieu nous dit au travers de ses promesses. Je voudrais t'encourager à vivre cette œuvre de régénération, à demander à Dieu de venir inscrire sa loi sur ton cœur, de faire de cette loi un besoin, excusez-moi, viscéral. De dire, Seigneur Jésus, par moments j'ai trop appliqué la loi. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à ces hommes et ces femmes. Il y a quelque chose de dramatique à vivre la foi chrétienne au travers de lois et de choses, de listes de choses à faire. Dieu veut mettre cette loi en nous. Et pour que ça devienne un besoin chez nous, un désir profond de plaire à Dieu, cette justice n'est plus simplement sur de la pierre, mais elle vient s'inscrire sur notre cœur. Et je voudrais t'inviter à vivre ce que moi j'appelle la grâce de Dieu. Cette loi qui est si inaccessible aux hommes devient possible à l'homme parce que Dieu vient l'inscrire au plus profond de nous. Elle devient une loi naturelle en toi. La deuxième chose qui nous est dit dans ce texte, il nous est parlé d'être miséricordieux. Tu es béni, toi qui es miséricordieux. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a une bénédiction à la clé, à laisser son cœur basculer. Et Dieu veut t'encourager à laisser ton cœur parler par moments plutôt que la justice. Tu as le droit d'appliquer une justice, mais tu seras béni d'être miséricordieux. La dernière chose que l'on a vue ce soir, c'est d'avoir ce cœur pur. Non pas ce cœur pur que nous aurons façonné nous-mêmes, mais ce cœur pur qui s'obtient au pied de la croix par la régénération, par le fait que le Saint-Esprit vienne en nous, nous transforme, nous change, ce sang de l'agneau qui nous couvre et qui nous purifie, qui nous justifie aux yeux de Dieu. On a parlé de tes impossibilités, je veux croire que Dieu va s'occuper de tes impossibilités ce soir. Vous l'avez bien compris ensemble. J'aimerais prier avec toi, on est ensemble, tout simplement, on est dans un temps particulièrement intime avec Dieu. Et je voudrais t'inviter à baisser la tête avec moi et à prier simplement. Je crois et je suis convaincu d'une chose, c'est que cette parole va devenir réalité. Tu vas voir Jésus dans ta vie parce que tu vas accepter peut-être à nouveau de revenir au sein de Jésus. Ce texte est une préfiguration des choses à venir et de ce que Jésus va entreprendre. Et ce soir, tu fais un constat d'un combat dans ta vie, d'une lutte qui fait que dans ton cœur, tu ne peux pas te considérer comme quelqu'un qui a un cœur pur et ça devient un combat, une frustration telle. Et il y a un mot ou une impossibilité, c'est impossible. Dieu te dit que ce qui est impossible aux hommes demeure possible à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ce soir, j'aimerais m'approcher avec toi de Jésus. Et Seigneur, alors que nous venons à tes pieds, mon Père, je te présente tous les amis qui sont avec moi et qui écoutent ce message. Et je te prie vraiment de vrai dans ce sens-là par ton Esprit Saint. Je te prie vraiment, mon Dieu, de les amener à vivre cette œuvre, à accepter peut-être à nouveau dans leur cœur que Jésus, que le sang de Jésus vienne sur eux et les purifie et les amène à vivre cette purification qui les conduira à te voir agir dans leur vie. Seigneur Jésus, je te prie de te manifester dans ces cœurs, dans ces luttes, dans ces combats, dans ceux qui sont frustrés de ne pas avoir ce cœur pur. Mais Dieu te dit, ne pas essayer de lutter à part tes propres forces, mais d'accepter que ton cœur devienne pur en acceptant que le sang de Jésus, que l'œuvre de régénération du Saint-Esprit s'occupe de ta vie. Il y a une impossibilité, dépose-la au pied de Jésus ce soir. Car Dieu a la possibilité de te transformer. Ainsi, aux yeux de Dieu, tu deviendras pur et tu verras Dieu agir dans ton cœur et dans ta vie au travers de cette œuvre de régénération. Finalement, la pureté en toi va s'appliquer dans la mesure où tu vas accepter que Jésus s'occupe de ton impossibilité. Seigneur Jésus, délivre les cœurs les plus opprimés, les plus prisonniers. Tu es venu faire cette œuvre extraordinaire de transformation, de régénération, de transformation intérieure. Merci mon Dieu pour ta parole. Merci Seigneur pour ce sermon sur la montagne qui est une portée, un encouragement profond pour nos vies, pour celui qui lutte et qui a un combat, qui est en face d'une impossibilité ce soir. Jésus, tu es celui qui veut libérer les cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez été bénis ce soir au travers de la louange et au travers de ce simple message. J'étais heureux de partager ces quelques réflexions. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. En attendant que Dieu vous bénisse, j'aimerais vous inviter juste à être prudent compte tenu du contexte dans lequel nous sommes. Nous prions pour vous, nous demeurons à vos côtés pendant ce temps tellement particulier et nous prions surtout que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.